Chapitre 44. 8 heures viennent juste de sonner en ce matin de décembre, et derrière la fenêtre du bureau, l'obscurité est totale. Bernard est assis devant son ordinateur en robe de chambre bleue, une tasse de café posée près du clavier. Une armoire de Yerzeux du XVIIIe siècle trône contre un mur. Le meuble est entièrement peint à la tempéra à l'œuf, comme un ciel d'été parsemé de nuages blancs. Dans la niche de la fenêtre, une bougie en stéraïne brûle dans un chandelier de bronze muni d'une anse et d'une soucoupe. La flamme jaune et chaude se reflète dans la vitre. Bernard observe son propre reflet dans l'éclat froid de l'écran d'ordinateur. Sous la lumière, ses cheveux gris en bataille ressemblent à une touffe d'herbe givrée dans un pré. Il a retranscrit les notes d'Agnetta sur la conférence de presse de la police ainsi que ses conversations avec Yuna. Elle est douée. Elle perçoit les nuances et capte des détails qui font vivre son compte-rendu. L'avant-veille, Bernard a réussi à joindre Hugo à la clinique pour lui demander comment s'était passée sa séance d'hypnose.
« Tu peux pas comprendre », lui a-t-il répondu.
« Après, j'étais complètement choqué. J'ai dû prendre de la Tarax pour tenir le coup. »«
Tu as pu aider la police ?» a demandé Bernard.
« Je crois pas. » C'était surtout des images du cauchemar, mais ils avaient raison. J'ai quand même quelques souvenirs du camping. J'ai vu les caravanes et la neige, et peut-être la meurtrière, une femme, avec une hache.
Une femme? C'était une femme?
Papa, je sais pas. Ça faisait peut-être aussi partie du rêve. Je suis complètement paumé.
Désolé, je suis juste curieux, a répondu Bernard.
Je veux pas te mettre la pression. Il n'y a pas d'urgence pour le livre. Tu racontes ce que tu veux raconter, à ton rythme. Tu le sais, on s'est mis d'accord là-dessus.
Quand Bernard se concentre sur l'écriture, il essaie de ne pas s'inquiéter pour Hugo et bloque tout ce qui pourrait le parasiter ou l'angoisser. Il évite de penser aux interviews par mail avec les journaux espagnols et aux lettres des lecteurs dans la rubrique « Courrier du cœur » du quotidien Expressen. Aujourd'hui, il a atteint son état de méditation créative et il écrit avec concentration depuis 5h30 ce matin. Le cliquetis de ses doigts sur le clavier s'interrompt. Il lève les yeux et s'extrait brutalement de son monde intérieur, comme s'il se réveillait dans la réalité. La flamme de la bougie semble avoir pâli depuis que le soleil s'est levé. Le ciel s'est éclairci et les eaux ondulantes du lac Mellaren ont pris la couleur de l'acier. Il regarde son téléphone et voit qu'il est 9h15. Il lit un mail de son agent qui lui annonce qu'il est nommé pour un prix littéraire allemand et qu'il invite à partager l'information sur les réseaux sociaux. Ce soir, il doit dîner au restaurant Gandolen avec un producteur de cinéma français. Son éditeur américain a envoyé une critique élogieuse parue dans Publishers Weekly et répète qu'il veut organiser une tournée pour l'automne. Il signe numériquement un renouvellement de contrat italien pour les 3 premiers livres, au moment même où Agnetta lui envoie un bitmoji qui la montre se réveillant heureuse sur un oreiller en forme de cœur. Bernard lui répond avec son propre bitmoji, les yeux en forme de cœur, puis descend à la cuisine afin de lui préparer une tasse de café bien fort. Le samedi, il a l'habitude de préparer différents plats de pâtes pour le petit déjeuner, de monter 2 assiettes, 2 petits verres de vin rouge et de se glisser sous la couette à côté d'elle. Aujourd'hui, il a prévu de faire revenir de l'ail haché dans du beurre et de l'huile d'olive, avec des rondelles de piment rouge et un peu de gingembre, avant d'ajouter des pois mangetous bien grillés, des crevettes fraîches et des penne al dente. Mais d'abord, elle doit boire son café et lire les nouvelles. Il monte la tasse et un petit morceau de chocolat noir dans la chambre. Agnetta a déjà ouvert les rideaux. Elle est assise dans le lit avec son iPad dans les mains et le regarde d'un air étrange quand il entre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il. « Hugo a été interviewé dans Aftonbladet, » dit-elle.
« Quoi ?»
Sa main tremble quand il pose la tasse sur la table de chevet, prend l'iPad et voit le titre. « Le tueur à la hache, le somnambule, seul témoin de la police.
Quoi »« Quoi? Ils sont allés à la clinique ?» « Lis, tu verras, » dit-elle.
Il parcourt l'interview, stupéfait de voir les photos de Hugo devant un mur de béton abîmé par l'humidité. Il s'assied au bord du lit et relit l'article avec attention, sentant le malaise l'envahir.
« Mon Dieu !» murmure-t-il.
« Je sais, » dit-elle doucement en lui prenant la main.
« Pourquoi il a fait ça ?»
Agnetta s'est habillée. Elle est assise dans la cuisine et lit sur son téléphone un communiqué du club des publicistes qui lui propose de faire la critique d'un spectacle pour le centre de danse contemporaine Moderna Dance Theater. Elle décline. À travers les murs, elle entend Bernard qui ouvre la porte d'entrée à Hugo.
« Tu peux enlever tes écouteurs ?» dit Bernard calmement.
« J'écoute pas de musique, » répond Hugo. « Enlève-les quand même. »
Agnetta reste assise quand ils entrent dans la cuisine. Elle réalise qu'elle n'a pas pris son comprimé et son rythme cardiaque s'accélère rien qu'à cette pensée. Les vêtements de Hugo sont froissés et ses cheveux en désordre sont attachés en queue de cheval. Elle a abandonné l'idée de l'embrasser, mais elle lui sourit en le saluant et soutient son regard aussi longtemps qu'elle le peut. Puis, elle lui demande s'il veut un café. Il hausse les épaules, marmonne quelque chose d'inaudible et glisse ses écouteurs dans la poche de sa chemise.
« Tu veux que je te fasse un latte ?»
demande-t-elle. « Il peut se le faire lui-même s'il en veut un, » dit Bernard.
« Bienvenue à la maison, » lance Hugo ironiquement en s'asseyant à la table.
Agnetta voit qu'il ne s'est pas rasé, que ses yeux sont injectés de sang et qu'il a les ongles sales.
« Il faut qu'on parle, » déclare Bernard en s'asseyant en face de lui.
« Tu l'as déjà dit au téléphone, » répond nonchalamment Hugo. « Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es enfui de la clinique ?»«
Je me suis pas enfui. J'ai juste pris mes affaires et je suis parti, » dit-il d'un ton désintéressé.
Agnetta voit Bernard hocher lentement la tête et passer sa main droite sur la surface de la table.
« Je vais devoir appeler Lars et lui présenter mes excuses, » dit-il presque pour lui-même.
« Pourquoi ?
C'est pas comme si j'étais interné de force, » répond Hugo en regardant son téléphone.
« C'est justement pour ça qu'on doit s'excuser. Il s'agit de confiance, de respect. »«
Ok, » soupire-t-il.
« Range ton téléphone. »«
Du calme ?»
dit Hugo avec un sourire agacé.
Il scrolle lentement sur l'écran. Clairement conscient qu'il est observé.
Où as-tu dormi cette nuit?
Chez un pote, répond-il en posant le téléphone sur la table.
Pas chez Olga?
Non, dit-il en jouant distraitement avec son piercing sur sa lèvre inférieure.
Pourquoi pas? Demande Bernard.
Elle bossait de nuit.
Où ça?
Qu'est-ce que ça change? Soupire-t-il.
C'est secret?
On peut arrêter de parler de ça?
« J'essaie juste de comprendre ce qui se passe dans ta vie, » explique Bernard en couvrant sa main tremblante avec l'autre main.
« Tu peux pas. »«
Pas si tu dis rien, » rétorque-t-il. Hugo se lève, va au frigo prendre une canette de Red Bull, boit une gorgée, rote discrètement, puis boit encore. « Tu fais beaucoup de crises de somnambulisme en ce moment. On dirait que c'est l'une de tes pires périodes, » poursuit Bernard.
« Ouais, » soupire Hugo en finissant la canette.
« Tu ne penses pas que c'est quelque chose à prendre au sérieux ?»
demande Agnetta, consciente qu'elle respire vite et superficiellement.
« Je m'en fous. »
C'est assez immature comme réponse.
Hugo jette la canette vide dans l'évier, puis la regarde droit dans les yeux.
« Je parle avec mon père, » dit-il d'un ton sec. « Je sais, et je... Tu devrais peut-être aller faire autre chose pendant que... »
« Hugo !» l'interrompt Bernard.
« Ça marche pas comme ça.
Agnetta fait partie de la famille tout autant que toi et moi. »
Même plus, on dirait.
Plus, répète Agnetta.
Papa,
tu dois reconnaître que je suis celui qui a le moins de droits ici, continue Hugo.
Arrête,
dit Agnetta avec un sourire crispé, le cœur battant.
Je ne te parle pas à toi, mais tu devrais peut-être tout ici, dans cette maison. Tourne autour de tes conditions à toi, dit Hugo en haussant la voix. Je dois marcher sur des œufs pour ne pas être viré de chez moi.
Agnetta s'apprête à rire, mais se ravise. Il ne doit pas penser qu'elle se moque. « Écoutez, » dit Bernard en levant les deux mains, « est-ce qu'on peut essayer de se comporter comme des gens normaux et parler de ce dont on a vraiment besoin de parler ?»«
Si vous devez le faire, faites-le, »
soupire Hugo en se mordillant nerveusement le pouce. « On a lu l'article dans Aftonbladet, » commence Bernard.
« Ok,
Désolé si j'ai spoilé votre livre, dit Hugo en se rasseyant à la table.
Tu crois que c'est de ça qu'il s'agit ?
Demande Bernard.
Ouais, je crois. Les livres, c'est toujours ce qu'il y a de plus important.
Tu réagis comme un gamin, dit Bernard sur un ton plus ferme.
Si tu comptes juste m'engueuler, je me casse.
Hugo, écoute ton père, s'il te plaît, dit Agnetta qui sent qu'elle commence à reprendre le contrôle d'elle-même.
Ça n'a rien à voir avec le livre. Comprends qu'il est bouleversé parce qu'il est inquiet. C'est dangereux. Tu viens d'être exposé publiquement comme le seul témoin d'un meurtre.
Il la fixe d'un regard vide.
Mais j'ai aucun souvenir réel de ça.
Nous, dans cette pièce, on le sait. Mais personne d'autre, dit Bernard. Je veux dire que ceux qui lisent l'interview pensent que tu es un véritable témoin. Tu comprends?
Et je disais juste que j'étais là, que j'essayais de travailler mes souvenirs. Tout a été tellement déformé, ils s'en fichent.
Ils se fichent que tu sois une cible maintenant, dit Bernard.
Arrête,
dit Hugo. Une expression d'inquiétude traverse son visage.
Je ne veux pas te faire peur, mais cette tueuse ne va pas s'arrêter comme ça. Elle ne veut pas s'arrêter.
Elle ne se laissera pas arrêter par qui que ce soit, dit Bernard. Et si elle croit vraiment ce qui est écrit dans le journal, il y a un risque qu'elle essaie de te retrouver et de te faire taire.
Tu devrais être sous protection, dit Agnetta.
C'est vrai, acquiesce Hugo en la regardant droit dans les yeux. Bien, on fait ça. Je vais voir le commissaire, mais ça va demander beaucoup de démarches, dit Bernard.
Sinon, la clinique est probablement l'endroit le plus sûr, plus que cette maison. Là-bas, il y a du personnel 24 heures sur 24. Ils ont une sécurité élevée, des alarmes, des caméras.
Hugo regarde à nouveau son téléphone pour voir s'il a reçu des messages. Agnetta se demande s'il s'est disputé avec Olga. Elle aperçut une ombre sur son visage quand la conversation est passée sur elle.
Est-ce que ce plan te convient ?
Demande Agnetta.
Revenir à la clinique si la protection policière n'est pas possible ?
Je suppose, soupire Hugo.
Mais ?
Demande-t-elle.
L'hypnose, je sais pas, c'était tellement flippant.
Lars n'était pas avec toi ? Demande Bernard.
Si, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire ?
Il doit s'assurer que c'est dans ton intérêt. C'est son travail, dit Bernard.
Je voulais aider la police.
C'est très bien, acquiesce Bernard.
Mais je supporterai pas d'être hypnotisé à nouveau.
Je peux en parler avec Lars si tu veux, dit Bernard.
Oui, je veux bien.
Mais tu as commencé à te souvenir d'éléments concrets, non ? Demande Agnetta.
Je sais pas, c'était complètement fou. Ils ont l'air de croire que j'ai assisté au meurtre, raconte-t-il.
Hugo, ce serait d'une aide incroyable si tu pouvais tout noter, dit Bernard. Tout ce qui concerne l'hypnose, ce que tu as ressenti, ce que l'hypnotiseur a dit, ce que tu as répondu.
Je vais essayer.
Ils ont dit qu'ils voulaient continuer ? Demande Agnetta.
Non, je sais pas, mais j'y ai réfléchi et je crois que j'en suis pas capable.
Tu n'es absolument pas obligé de le faire, dit Bernard. Après tout, ils t'ont gardé en détention, ils t'ont accusé de choses horribles.
Oui, c'est sûr.
Ce n'était pas correct, dit Agnetta. Mais, en même temps, il s'agit de quelqu'un qui a vraiment tué au moins deux personnes avec une hache, qui les a massacrées. Imagine si tu pouvais aider à arrêter ce monstre.
Je sais,
répond Hugo d'une voix presque inaudible.